Notre spirituel aujourd'hui sera question de John Henry Newman, ou Newman, comme on dit souvent en français. On lui donne son nom de famille, Newman. C'est qu'il est tellement connu. Une des plus grandes figures du christianisme du 19e siècle. Il est mort en 1890 à 89 ans. Né anglican de tendance protestante, il a petit à petit transformer sa pensée religieuse, et il a eu une difficile conversion au catholicisme, et devenu catholique, il est devenu finalement le cardinal John Henry Newman, apprécié même par les anglicans au point que certains d'entre eux ont déjà demandé il y a plusieurs dizaines d'années au Vatican, au pape, de le canoniser, bien qu'ils étaient anglicans eux-mêmes. C'est-à-dire séparés de l'Église catholique. Comme vous savez, les Anglicans sont séparés de l'Église catholique depuis environ 1534, à l'époque du roi Henri VIII. C'était hier l'anniversaire du décès de Mgr Louis Aucoin. Je n'ai pas pu en parler parce que je n'ai pas assez de documentation sur lui, mais c'était un grand ami, je tiens à le signaler, Mgr Aucoin, qui a tant œuvré ici à Montréal. Le cardinal Newman, et je préfère l'appeler John Henry Newman, tout simplement, est né à Londres en 1801, le 21 février, comme je vous ai dit, d'une famille anglicane de tendance protestante, car il y a à l'intérieur de l'anglicanisme des protestants, des gens qui sont entre les protestants et les catholiques, et dans la High Church, la haute église d'Angleterre, il y a quelques paroisses à Londres, comme ça on en retrouve à Oxford, des gens qui sont d'esprit très catholique, tout en demeurant anglicans et plus ou moins protestants. En août 1816, il est tout jeune. Il a 15 ans. Pendant les vacances scolaires, il éprouve une première conversion. Il fait cette bouleversante expérience, donc, de Dieu qui se découvre à lui. Et avec une grande assurance, il va écrire un jour, « La conversion concentra toutes mes pensées sur les deux êtres, et les deux êtres seulement, dont l'évidence était absolue et lumineuse à mes yeux, c'est-à-dire moi-même, et mon Créateur. » Et ainsi débute cette espèce de destin spirituel extraordinaire à 15 ans d'un homme dont le génie religieux remplit tout le 19e siècle et qui va se révéler à nous dans la difficulté d'une conversion qui était l'une des premières, sinon la première, à se faire sur une si haute échelle depuis le 16e siècle. L'année suivante, en juin 1817, Newman entre à Trinity College à Oxford à 16 ans seulement, c'est très jeune. Bon, à peu près 11 ans plus tard, il est ordonné prêtre, il est nommé curé, anglican évidemment, de la paroisse de St. Mary's d'Oxford. C'est important. Et petit à petit, il devient membre du mouvement de la High Church, de la Haute Église d'Angleterre, anglicane. En 1833 et puis jusqu'en 1841, il devient, Newman, le leader du mouvement d'Oxford, c'est-à-dire un mouvement de contre-réforme, comme l'Église catholique en a toujours eu un depuis le 16e siècle avec le Concile de Trente, etc., il y a une contre-réforme protestante. Alors lui, il veut établir un mouvement de contre-réforme protestante parce qu'il trouve que l'anglicanisme devient trop protestant de se rapprocher de l'Église catholique dans toutes sortes de façons de lire les pères de l'Église, la Bible, d'interpréter la tradition et de prier Dieu, n'est-ce pas? Et le 19 septembre 1843, il abandonne sa cure de St. Mary's d'Oxford. Et finalement, après un difficile cheminement, très difficile, le 9 octobre, ce sera l'anniversaire demain, en 1845, le père Dominique Barberi, un passionniste, reçoit son abjuration et celle de ses disciples, car les catholiques ont eu la possibilité de revenir en Angleterre avec toujours un certain mépris de la part des Anglais, mais quand même, ils sont là et ils réussissent à s'installer dans ce pays où ils avaient été chassés depuis le temps de Henri VIII et Élisabeth Ière, reine d'Angleterre. Le 30 mai 1847, un an et demi après sa conversion, Newman est ordonné prêtre de l'Église catholique. Et l'année suivante, il fonde à Maryville, près de Birmingham, la première communauté anglaise de l'oratoire. Il se fait oratorien, si vous voulez, donc disciple de Saint-Philippe Neri et d'une grande tradition intellectuelle dans l'Église catholique, car les oratoriens sont réputés pour leurs immenses bibliothèques et leurs études et la recherche profonde. Nous n'en avons malheureusement pas à Montréal, mais il y en a à Toronto. Le 12 novembre 1851, John Henry Newman est nommé recteur de l'Université catholique de Dublin, en Irlande. Il écrira d'ailleurs un ouvrage extrêmement intéressant sur l'université, qui a été traduit ici à Montréal. Le 12 novembre, encore 7 ans plus tard, en 1858, il se démet de son rectorat à l'Université catholique de Dublin, se retire à l'oratoire des oratoriens, là. Puis 6 ans plus tard, en 1864, il publie ce fameux livre, l'Apologie, c'est-à-dire Apologia pro vita sua, l'Apologie pour sa propre vie, que je citerai à l'occasion durant cette émission. Et le 12 mai 1879, Léon XIII le crée cardinal. Il a 78 ans. Et le 11 août 1890, en plein été, il meurt à Edgbaston, donc à 89 ans, comme je vous ai dit. Je vous avais déjà raconté sa vie il y a quelques années. Je ne la reprendrai pas in extenso. J'y reviendrai plutôt peut-être l'an prochain ou dans 2 ans, si je suis toujours là. Mais là, je voulais surtout aujourd'hui vous parler de sa difficile conversion. Car c'est assez dramatique. C'est quelque chose de pas facile. Hein? Pas facile. Il est dit dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, sur la prière, c'est Jésus qui dit ça, c'est rapporté par Saint Luc. « Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint, pas n'importe quoi là, l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Peut-être que nous ne demandons pas assez l'Esprit Saint pour nous convertir, car si nous le demandions du fond du cœur, en hurlant et en criant, ou silencieusement au fond du cœur, un cri qui s'arrache du fond de notre être, l'Esprit Saint nous envahirait et nous serions peut-être en voie de faire comme Newman. Car depuis qu'il est entré dans l'Église le 9 octobre 1845, il est comme un poisson dans l'eau, c'est-à-dire dans son véritable élément, c'est ce qu'il dit. Il le rapporte dans son Apologia pro vita sua. Depuis le moment où je suis devenu catholique, nous dit-il, mon cœur n'a été troublé par aucune sorte d'inquiétude. Toutes les inquiétudes qu'il a eues avant. J'ai été dans un état de paix et de satisfaction parfaite. Je n'ai jamais eu un seul doute. Il me semblait rentrer au port après avoir traversé une tempête. Et la joie que j'en ai ressentie dure encore aujourd'hui, sans qu'elle ait été interrompue. C'est assez extraordinaire. Hein? Parce que là, il est essentiel. Hein? Et la grâce propre de sa conversion, il se trouve comme établi par cette conversion dans une abondance de paix dont il parle, qui n'a jamais connu une paix qui sera pour lui comme une étoile polaire parmi les tribulations qui l'attendent. Hein. Ceux qui sont sur la mer, l'océan autrefois, hein, se guidaient par l'étoile polaire pour retrouver un endroit où accoster avec leur bateau et trouver la paix. Les problèmes mais vont venir très vite pour lui. Il sera attaqué. Il y aura une brochure violente, d'ailleurs, d'un prêtre catholique, Ratbone, qui l'attaque, qui dit « Le baiser de Newman est le baiser du traître. » L'unique objet de cet homme, Newman, est de retenir dans l'église anglicane les braves gens fatigués de l'hérésie qui étaient presque décidés à revenir à nous. Quelle drôle d'idée, comme s'il s'était converti à l'église catholique, ou s'il s'approchait de l'église catholique par hypocrisie. De telles attaques, évidemment, étaient d'autant plus stupides que la situation des catholiques anglais, je vous en ai glissé un mot tout à l'heure, était loin alors d'être brillante, hein? C'est pas facile, il revenait après une longue période de persécution. Tout de même, une situation effacée et diminuée au possible, comme le dit Denis Gorce dans son beau livre « Le martyr de Newman ». Les catholiques ne comptaient, pour ainsi dire, pas du tout. Ils demeuraient tout à fait extérieurs à la bonne société. Et c'est pourtant dans ce milieu si peu relevé là qu'il fallait que John Henry Newman entre maintenant. Quel déclassement et quelle humiliation! Pour un scholar d'Oxford, imaginez, il n'en était pas de pire ni de plus révoltante, et c'était là vraiment l'humiliation des humiliations. Cette infériorité des catholiques anglais, George Ward, le plus ouvert de tous les convertis, qui n'hésite pas à la souligner. Même au prix de se montrer un peu blessant à l'égard des catholiques, il dit un jour, les catholiques anglais ne savent pas ce que c'est que l'éducation. Beaucoup d'entre eux ne peuvent écrire l'anglais. Et que l'un d'entre eux entre en controverse avec un protestant, mais c'est un barbare se rencontrant avec un homme civilisé. Il va pas de main morte. Hein? Il faut quand même ajouter que le clergé catholique n'avait pas que des défauts. Hein? S'il ne possédait peut-être pas l'éducation des Anglais de race, comme on dit, il avait en tout cas une réserve de foi profonde. Et son esprit de désintéressement, ce clergé, et de dévouement, comme aussi de sacrifice, était indéniable. D'ailleurs, c'est Newman lui-même qui le constate. Il dit « Rien ne m'a plus frappé dès le premier abord que la manière d'être toute anglaise et la franchise des prêtres catholiques. Elle était la même à Oxford, à Old Hall Green et à Ushant. Elle n'avait rien de ce caractère doucereux et affecté qu'on leur impute d'ordinaire. Non, les prêtres catholiques étaient plus naturels et moins affectés que beaucoup de ministres anglicans. » Mais Newman éprouve évidemment bien des problèmes, et je veux en souligner un qui est assez drôle, c'est le changement d'habit. Hein. Il dit qu'il a échangé l'habit à queue de morue et la cravate serrée des anglicans contre le col romain puis le long habit à basque des prêtres catholiques. Ça a été pour lui un embarras. Non pas qu'il ait l'impression de revêtir, dit-il, le moins du monde, le vêtement du pauvre, mais il est mal à l'aise. Il écrit dans une lettre « Mon ennui à marcher dans les rues de Londres est considérable, non pas que j'ai de la répugnance à porter l'habit clérical catholique, mais je le porte, c'est que je le veux bien, mais je suis si embarrassé et si gauche que je me fais honte à moi-même. Il n'y a qu'une chose qui me dédommage, c'est que les pauvres catholiques le reconnaissent et me donnent des coups de chapeau. Mais me voyez-vous, moi, qui n'ai jamais été en costume, portant à mon habit un col étroit avec une longue garniture. Oh, je sais que je dois paraître fou étant donné le ridicule que j'éprouve au-dedans. Voilà un petit problème. Mais on va reculer dans le temps, puis parmi toutes les souffrances que Newman a dû endurer lors de sa conversion, il y a en particulier le culte de la Vierge et des saints. Et comme cette émission est consacrée très souvent des émissions sur la Sainte Vierge, mais surtout à des saints, eh bien, la conversion de Newman a été un problème. Je vous rappelle que Newman ne devient catholique que le 9 octobre 1845. Hein? Il est anglican. Alors Newman croit pendant très longtemps que le culte rendu par les catholiques romains à la Vierge et aux saints forme un obstacle qui lui barra tout jamais le chemin de leur communion et pourra jamais devenir catholique. Il croit que l'Église de Rome a péché gravement à travers les siècles et que sa faute consiste essentiellement dans ce culte qui est pour lui abominable. Jusqu'au dernier mois avant sa conversion, certaines manifestations de dévotion en l'honneur de Marie ont été une croix de scandale. Il écrit d'ailleurs dans son Apologia pro Vita Sua, il dit « My great crooks as regards Catholicism, hein? Ma grande croix en ce qui regarde le catholicisme. » Ce sont ses propres termes, « My great crooks as regards Catholicism. » Et tout en condamnant les catholiques, pour leur attitude envers la Vierge, Newman éprouve pour elle une véritable dévotion, ce qui est rare chez les Anglicans de sa génération dans son temps, au milieu du 19e siècle. Un de ses premiers sermons célèbre sa pureté immaculée. Et le fameux sermon de 1843, donc avant sa conversion, sur le développement du dogme, propose Marie comme le modèle de l'âme croyante et méditative. Mais autre chose est vénérer la Vierge et la prendre pour modèle, hein, comme le font aujourd'hui beaucoup de nos frères séparés. Vous savez, chez les luthériens, les anglicans, etc., il y a un retour à la Sainte Vierge. Et autre chose est de lui rendre, ainsi qu'aux saints, un culte proprement dit, surtout quand ce culte a pris des dimensions inconnues de l'Antiquité chrétienne. Hein. En quoi consiste donc la difficulté que Newman éprouve? Eh bien, et puis comment arrive-t-il à la surmonter? La réponse à ces deux questions va nous aider à comprendre la mentalité de nos frères séparés. Puis approfondir aussi notre propre dévotion mariale en ce mois d'octobre qui est le mois du rosaire. La difficulté appartenait à l'ordre spirituel et pratique. Bon, je m'explique. Au jugement de Newman, honorer la Sainte Vierge et les saints à la manière des catholiques romains, cela revient à mettre des créatures à la place du Créateur. Quant à l'enseignement, écrit-il, de l'enseignement officiel de l'Église de Rome, à en juger d'après ce que nous envoyons au grand jour, je pense qu'il n'est pas loin de substituer un autre évangile à l'évangile véritable. Au lieu de placer devant l'âme la Sainte Trinité, le ciel et l'enfer, il me semble qu'en tant que système populaire, l'enseignement officiel de l'Église de Rome prêche la Sainte Vierge, les saints et le purgatoire. Il prétend aussi que le pape a érigé la vénération de la Sainte Vierge en un culte de caractère idolâtrique. Il dit ça dans The Via Media of the Anglican Church, mais c'est toujours avant sa conversion. Il ajoute, tout sentiment qui gêne la domination de Dieu sur notre cœur est de nature idolâtrique. De même que les hommes sont tentés de faire une idole de leur rang, de leur fortune, ou de leurs aptitudes, de leurs enfants, ou d'eux-mêmes, de même, ils peuvent être facilement entraînés à substituer la pensée des saints et des anges à l'idée suprême de leur Créateur et Rédempteur, laquelle devrait les captiver. Pour défendre la légitimité de telles invocations, il est hors de propos, ajoute Newman, d'avancer l'exemple d'hommes comme Saint Bernard. Plus l'homme est saint, moins sera-t-il vraisemblable qu'elle lui fasse du mal. Mais il en va tout autrement avec des personnes ordinaires. Il y a beaucoup moins de respect sacré et d'austérité dans la dévotion qui prend appui sur la perfection créée. Les esprits mondains y auront volontiers recours afin de s'épargner la nécessité de lever les yeux vers le sanctificateur et le juge. D'autre part, termine Newman, la grande foule est incapable de contempler plusieurs idées à la fois. Une seule idée suffit aux hommes, et si l'on permet à l'image d'un saint d'entrer dans leur cœur, le saint va le remplir, et il n'y aura plus de place pour le Dieu Tout-Puissant. C'est toujours Newman, anglican, là, qui écrit. Je vous le rappelle, il n'est pas converti. Les textes que je viens de citer, évidemment, appartiennent à des écrits qui sont publiés en 1841, donc 4 ans avant sa conversion. Et Newman reste fidèle aux idées qu'ils expriment là, jusqu'à une époque toute proche de sa conversion. Qu'est-ce qui va lui arriver dans cette difficile conversion? Il ne faut pas nous étonner qu'un homme aussi intelligent ait professé de tels préjugés à notre égard, nous, catholiques. Hein? Son état d'esprit s'explique par 2 causes. L'influence du milieu et la difficulté que présentent aux non-catholiques certaines façons d'exposer notre doctrine. Hein? C'est pas sans raison que les pères de Vatican II, dans les années 60, là, plus dernièrement, ont exhorté théologiens et prédicateurs, j'ouvre les guillemets, à s'abstenir avec le plus grand soin. Quand la dignité unique de la Mère de Dieu est en cause, donc s'abstenir à la fois de tout excès contraire à la vérité et non moins d'une étroitesse injustifiée. Les pères du Concile Vatican II ont demandé que l'on explique la foi catholique, j'ouvre les guillemets, de façon plus profonde et plus droite. utilisant une manière de parler et un langage qui soit facilement accessible même aux frères séparés. Or, que cette méthode de Vatican II était la bonne, eh bien, il y a un humble prêtre irlandais qui l'a compris au siècle dernier, 120 ans avant. En effet, au printemps de 1841, Charles William Russell, jeune professeur au séminaire de Maynooth, en Irlande, Maynooth, il a pris la liberté d'envoyer à Newman une lettre qui entraîne une correspondance suivie. Et l'abbé Russell sait éviter toute polémique irritante. Il se montre discret. Et Newman va dire, « Il a eu peut-être plus de part à ma conversion que personne d'autre, cet abbé Russell. » Voici la lettre de l'abbé Russell. « Soyez assurés, » écrit donc Russell en avril 1841, avant la conversion, là, 4 ans avant la conversion de Newman, « que si vous nous connaissiez bien, nous catholiques, ainsi que notre doctrine sur la Vierge bénie et les autres saints, si vous connaissiez la justesse des idées que les moins instruits parmi les nôtres entretiennent sur la valeur des indulgences et l'usage des images saintes, vos craintes concernant notre système traditionnel disparaîtraient. Vous estimeriez que notre culte n'a pas besoin de réforme. Vous seriez moins enclin à considérer les honneurs que nous rendons aux saints comme excessifs et à être choqué par notre conception traditionnelle des indulgences. Où peut-on mieux découvrir le véritable esprit de nos dévotions que dans ces dévotions mêmes? Examinez-les, et vous cesserez de les craindre. Tout hymne a sa doxologie, c'est-à-dire une prière à la Trinité, une doxologie. Tout hymne a sa doxologie chez les catholiques. Toutes les litanies catholiques débutent par une prière adressée à la Sainte Trinité pour obtenir miséricorde. Et après que l'on a sollicité les prières du saint ou des saints, eh bien, ces litanies se terminent par une supplication demandant à nouveau miséricorde adressée à l'agneau de Dieu. Et chaque prière catholique se termine en donnant les mérites de notre Seigneur comme fondement des demandes. Le rosaire, que l'on considère comme la plus choquante parmi toutes nos dévotions catholiques, n'est qu'une suite de méditations sur l'incarnation, la passion et la gloire de notre Rédempteur. Alors, grâce à ces interventions de l'abbé Charles William Russell, eh bien, John Henry Newman apprend à mieux connaître la piété catholique et il évalue à leur juste proportion certaines manifestations de dévotion intempestive, de caractère limité et local que l'on retrouve ici et là, peut-être un peu dans le sud de l'Italie, en Espagne, et puis dans certaines régions seulement, hein. Et en parcourant un nombre de petits livres de dévotion vendus dans les librairies de Rome, lors d'un voyage, il constate avec étonnement qu'ils sont différents de ce qu'il a imaginé. Alors, il va se tourner vers les pères de l'église Saint-Athanase et Théodoret de Cyre, et je vais vous lire des textes qui datent d'il y a plus de 1500 ans, et qui vont vous intéresser, je l'espère, parce que ça a éclairé ce grand homme qui est John Henry Newman, ce très grand savant, et ça lui a permis d'entrer dans l'Église catholique, de devenir prêtre et de mourir cardinal. Cardinal, grand écrivain anglais, qui a été le fondateur quand il était anglican du mouvement d'Oxford, un mouvement extrêmement important au sein de l'anglicanisme, pour réformer l'anglicanisme, le ramener à ses sources, qui sont catholiques, et qui a écrit un livre extrêmement important, Apologia Pro Vita Sua, en 1864, une vingtaine d'années après son entrée dans l'Église catholique. Il a aussi écrit Le Songe de Géronius, l'année suivante, en 1865. Or, ce très grand personnage a des problèmes avant sa conversion, avec le culte des saints, dont il est souvent question à cette émission de rencontres spirituelles, parce que j'y raconte souvent des vies de saints, et avec le culte des catholiques rendus à la Sainte Vierge. Il lit donc Saint Athanase, Et on peut dire qu'à partir du moment où Newman se rend compte que des obstacles réputés infranchissables pour entrer dans l'Église catholique ne sont que le produit de préjugés ou d'interprétations superficielles et même assez souvent malveillantes, mais la route qui mène à l'Église catholique lui paraît libre, alors. Puis il a bien envie de s'y engager pour abjurer sa foi anglicane et prendre la foi catholique. Mais auparavant, il tient à faire une étude plus approfondie. Et ça ne lui suffit pas d'avoir constaté l'insignifiance des accusations habituellement élevées contre le culte de la Vierge des Saints. Il veut aller jusqu'au fond du problème et son esprit réclame une justification claire de la valeur de ce culte. Une explication théologique, quoi, à partir de données fondamentales du christianisme. C'est un grand intellectuel. Hein. C'est un très grand savant. Il veut des choses sérieuses. Et c'est donc en lisant les œuvres de Saint Athanase, dont je vous ai parlé il y a longtemps, le 2 mai 1996. Ceux qui veulent l'émission, c'est l'émission 263. Vous pouvez la commander. Je vous donnerai le numéro de téléphone à la fin de l'émission, comme je le fais tous les jours, ou à peu près. Alors, en lisant les œuvres de Saint Athanase, c'est comme ça que Newman découvre la réponse à son problème. Hein? Il a beaucoup étudié les œuvres de Saint Athanase entre les années 1841 et 1844, et il entrera dans l'Église catholique l'année suivante, en 1845, le 9 octobre, puis l'anniversaire demain. Alors, il découvre la réponse sous la forme d'un principe bien des fois rappelé par Saint Athanase au cours de ses polémiques contre les Ariens, il y a plus de 1500 ans, ça. Ce qu'il dit, Saint Athanase, en somme, c'est que par son incarnation, c'est la nature humaine, la créature, que le Verbe de Dieu a exalté. Et pour Newman, ce principe théologique, un peu abstrait en apparence, ce principe justifie à la fois le culte de l'humanité du Christ, puis le culte des saints et le culte des reliques. Je répète la phrase, par son incarnation, là, c'est la nature humaine, la créature que le Verbe a exaltée. Nos corps sont exaltés. Dans son essai sur le développement de la doctrine chrétienne, c'est un ouvrage extrêmement important. Je pourrais vous en lire des longs passages, mais on n'a pas le temps. Mais je vous en lis des petits passages qui vont vous expliquer ce qu'il a compris. La sanctification, il est souvent question de sanctification dans cette émission-ci, la sanctification, ou plutôt la déification de la nature humaine, est un point important de la théologie de Saint Athanase. Le Christ, en s'élevant, élève avec lui ses saints jusqu'à la droite de la puissance divine. Ils vivent les saints de sa vie. Leurs corps, aux saints, ne font qu'un avec sa chair. Ils deviennent, écrit-il, des fils de Dieu, des rois immortels, des dieux, avec un petit d. Il est en eux parce qu'il est dans la nature humaine, et il leur communique cette nature qu'il divinise en la faisant sienne, afin qu'elle puisse les diviniser. Ça semble un peu compliqué, mais ça nous est dit parfois en chaire. Je me souviens du sermon de l'abbé Pierre Léger qui parlait de ces questions-là. Oui, ça nous est dit en chaire ici à Montréal. Je continue. Le texte de Newman. Il vit en eux par la présence de son esprit, et il se manifeste en eux. Ces titres d'honneur qui lui appartiennent en propre, il les possède par participation, les saints. Nous pouvons leur appliquer sans crainte le langage le plus sacré des psalmistes et des prophètes. On peut dire de Saint Polycarpe, bon, je fais une émission sur Saint Polycarpe, quel grand saint du tout début de l'Église, hein, qui a connu Saint Jean. Bien, on peut dire de Saint Polycarpe ou de Saint Martin que vous connaissez, comme de notre Seigneur, tu es prêtre à jamais. Il ajoute Saint-Laurent, notre Saint-Laurent, notre fleuve Saint-Laurent, ville Saint-Laurent, c'est un de nos saints, n'est-ce pas Saint-Laurent, qui est mort sur un grill au début de l'Église. Eh bien, Saint-Laurent a réalisé ses paroles, dit Newman. Il a répandu sur les pauvres ses aumônes, ses libéralités. Et il ajoute ces mots J'ai trouvé David, mon serviteur, prononcé tout d'abord pour le roi d'Israël en manière de figure et se rapportant en réalité au Christ, sont ensuite appliqués par la grâce à ses vicaires sur la terre, c'est-à-dire les papes. Je t'ai donné les nations en héritage. Ça s'applique aux papes, dit-il. Telle est la prérogative des papes, ajoute-t-il. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité, la louange des vierges. Et Newman conclut, c'est très long texte que j'ai raccourci, là. Ce texte semble énoncer les textes que je viens de vous lire de la Bible, semble énoncer clairement que ceux qui sont reconnus formellement pour les fils adoptifs de Dieu en Jésus-Christ sont dignes d'un culte. C'est ce que dit Newman, sont dignes d'un culte. À cause de celui, avec une grande avec une majuscule, celui qui habite en eux, qui est le Christ. Doctrine qui explique et justifie, dit Newman, à la fois l'invocation des saints, le culte des reliques et la vénération religieuse dont sont parfois entourés les vivants eux-mêmes qui, pour leur sainteté, ont été l'objet de dons miraculeux. Le culte est donc le corrélatif indispensable de la gloire, et de même que les êtres créés peuvent participer à la gloire incommunicable du Créateur, eh bien, ils peuvent aussi participer, partager, c'est-à-dire ce culte qui n'est dû proprement qu'à lui seul. Voilà comment Newman finit par comprendre le culte des saints chez les catholiques. Et les adversaires du culte des saints et des reliques, on le sait, s'attaquent aux catholiques en faisant des analogies rencontrées dans les rites païens. Puis nos adversaires disent ces pratiques sont condamnables parce qu'elles viennent du paganisme. Et les évêques, à travers les siècles, qui ont toléré leur introduction, se sont peut-être laissés guider par un souci pastoral, de bonne volonté. Là, ils voulaient, ces évêques, offrir un dérivatif à des populations grossières, toujours tentées de retourner au culte des idoles. Mais pour retourner à la pureté, disent-ils, de l'évangile authentique, il faut les abandonner. Tout jeter ça à la rivière. Et les protestants ont fait ça, hein, au début de la réforme. Ils prenaient les reliques dans nos églises. Ils en ont détruit des reliquaires et des reliques. C'est quelque chose d'incroyable. Ils avaient raison sur plus d'un point parce que ça arrivait souvent que nos reliques étaient fausses. Il y avait eu des abus. Selon Newman, un tel raisonnement repose sur une méconnaissance totale de la vertu profonde du christianisme. Et il le dit bien dans son essai mentionné tout à l'heure, là. Il y a en vérité dans l'Évangile, écrit-il, une certaine vertu ou une grâce qui change la nature des doctrines, des opinions, des usages, des actes et des caractères personnels lorsqu'ils lui sont incorporés et les rend bons et agréables à son auteur divin, alors qu'auparavant, ils étaient souillés par le mal, chez les païens, là, ou bien n'étaient tout au plus que des reflets de la vérité. Alors, les vraies reliques, prenons la relique des reliques, le Saint-Suaire de Turin, c'est un objet merveilleux qui nous est donné par Dieu. Pensons aussi, moi je vous parle toujours devant une relique de Marguerite Bourgeois, j'habite face à l'endroit où elle a évangélisé, au XVIIe siècle, les Amérindiens, dans une vieille tour, rue Sherbrooke, et je touche toujours et j'embrasse cette relique que je viens d'embrasser d'ailleurs, de Marguerite Bourgeois, de Sainte Marguerite Bourgeois. J'ai du respect pour cette femme, qui a été une des premières évangélisatrices de Montréal. Les chrétiens de l'Antiquité, eux, ne connaissaient pas cette peur des reliques, ce dégoût que provoque chez certains chrétiens modernes la vue de coutumes d'origine païenne. Les premiers chrétiens, au début de l'Antiquité, les premiers catholiques, ils savaient que l'Église est habitée par une présence qui purifie les instruments puis les accessoires du culte, des démons pour les rendre dignes du culte du vrai Dieu. Ils disaient, ces premiers chrétiens, nous croyons que l'Église, telle la baguette d'Aaron, vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, dévore les serpents des magiciens. D'ailleurs, il y a un évêque du 5e siècle, donc, il y a plus de 1500 ans, qui s'appelait Théodoret de Cyre. Après avoir évoqué l'histoire des divinités païennes et les monuments élevés aux rois et aux empereurs, il disait, je vous lis ce texte qui est superbe. C'est très, très beau. Ce n'est pas une... Il faut lire les vieux textes de nos ancêtres chrétiens, catholiques. Il faut les connaître. Alors, c'est une émission où je le fais de temps en temps, pas trop souvent. Bon. Voici le texte de Théodoret de Cyre. Ce n'est pas une fois, deux fois, cinq fois par an que nous allons auprès des tombeaux des martyrs, mais c'est souvent que nous célébrons leurs fêtes. Fréquemment et même chaque jour, nous chantons des hymnes à leur Dieu. Ceux qui ont la santé prient pour la conserver. Ceux qui sont affligés de quelques maladies pour être délivrés de leurs souffrances. Ça ressemble à nos lieux de pèlerinage, à l'oratoire, etc. Ceux qui sont sans enfants, ils prient pour en avoir. Les femmes stériles prient pour devenir mères. Et ceux qui jouissent des bénédictions de Dieu, bien pour les conserver. Ceux qui partent pour un pays étranger demandent aux martyrs de les accompagner et de les guider dans leur voyage. Ceux qui sont revenus sains et saufs reconnaissent la faveur qu'ils ont reçue. Ils ne s'adressent pas aux saints comme à des dieux, mais, dit Théodoret de Cyre, comme à des hommes de Dieu, et réclament leur intercession. Et qu'ils obtiennent ce qu'ils demandent avec foi, leurs ex-voto, vous savez, des ex-voto, qui témoignent de leur guérison, le disent bien. Pas d'aujourd'hui, les ex-voto, ça fait plus de 1500 ans, comme vous voyez. Et Théodoret de Cyre continue. « Car certains apportent une image représentant des yeux, d'autres des pieds, d'autres des mains, quelques-uns de l'or, d'autres de l'argent, et leur Seigneur, notre Seigneur, accepte même la moindre obole, car il mesure la grandeur du don aux possibilités de celui qui l'offre. » C'est comme l'obole de la veuve dans l'Évangile. Il termine en disant cette belle phrase, « Les philosophes et les orateurs sont oubliés, la plupart des hommes ignorent jusqu'au nom même des rois et des capitaines, combien de gens illustres, sont complètement oubliés. Mais il ajoute, « Mais les noms des martyrs sont mieux connus de tous les chrétiens que les noms de ceux qui leur sont les plus chers. » C'est vrai, ça. Nos saints sont plus connus. Or, parmi les nombreux saints vénérés par les chrétiens, il y a la Vierge Marie qui occupe une place à part. Mais le principe qui explique pourquoi Marie jouit de privilèges et d'honneurs absolument uniques est celui-là même qui justifie le culte des autres saints, à savoir quoi? L'incarnation, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'incarnation du Fils de Dieu. Numian écrit les prérogatives spéciales de Sainte Marie, la Virgo Virginum, la Vierge des Vierges, sont intimement liées à la doctrine de l'incarnation elle-même. Déjà au IIe siècle, des pères de l'Église comme Justin ou Saint-Irénée de Lyon, dont je vous ai parlé le 28 juin 1995, il faudrait bien que j'y revienne, à Saint-Irénée de Lyon, fondateur de l'Église en Gaule, en France, chez nos ancêtres français, nous qui sommes d'origine française, eh bien, ces pères de l'Église, Justin, Irénée de Lyon, avaient remarqué combien intimement Marie, la nouvelle Ève, était associé à l'œuvre du Christ, le nouvel Adam. Puis à partir du 4e siècle, 2 siècles plus tard, et surtout à partir du Concile d'Éphèse, la relation unique qu'il y a entre Marie et son fils, le Christ Jésus, est reconnue universellement grâce à l'usage du titre de Mère de Dieu, Théotokos, comme on dit en grec. Et Newman ajoute que c'est là une relation unique, le fondement d'une unité unique, bien qu'infiniment inférieure à la dignité du Christ, c'est sûr. Ne faisons pas de la Sainte Vierge une déesse. Pour exprimer la différence qui sépare les deux dignités, de la Vierge d'une part et du Christ d'autre part, Newman compare l'idée catholique de la Vierge à l'idée que les Ariens se faisaient du Christ. Il dit, l'idée d'un être élevé au-dessus des autres, les autres êtres, mais inférieur à Dieu, et auquel par conséquent il manque l'essentiel pour avoir droit à la dignité absolue, car entre le tout et ce qui n'est pas le tout, ben, il y a un intervalle infini. Donc, entre la Vierge et son Fils, qui est Dieu, il y a un intervalle infini. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais, ça. Il suffit d'examiner les textes de prière en usage chez les catholiques pour constater que le culte dont ils honorent la Vierge diffère absolument du culte dont ils honorent le Christ. Nous n'honorons pas les deux de la même façon, jamais. Newman l'explique bien. Il dit d'ailleurs, c'est lui qui parle, « Le culte suprême et véritable rendu au Tout-Puissant est grave, profond et empreint de crainte révélentielle tout en étant tendre, confiant et respectueux. On s'adresse au Christ comme au vrai Dieu, bien qu'il soit en même temps vrai homme. comme à notre Créateur et juge, bien qu'il soit en même temps très aimant, doux et généreux. Par contre, le langage que l'on emploie quand on s'adresse à la Vierge est affectueux et ardent, comme envers une simple fille d'Adam, bien qu'il soit humble, étant celui de ses frères coupables. Alors, puisqu'une telle différence sépare le culte de la Vierge du culte du Christ, Newman se permet une attitude très sévère à l'égard des adversaires du culte de la Vierge. Eux, ils accusent les catholiques de rendre à la mère des honneurs dont seul le Fils serait digne, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est adorer le Christ. Et voici un texte très surprenant où il accuse ses anciens confrères protestants et dit « Il faut se demander... si une grande partie de la dévotion des protestants envers notre Seigneur n'a jamais revêtu le caractère d'adoration, il n'a pas ressemblé plutôt au sentiment que nous avons pour une créature supérieure, c'est-à-dire une dévotion égale à celle dont les catholiques honorent la Sainte Vierge. Alors finalement, il accuse les protestants de ne pas croire vraiment à la divinité du Christ. D'ailleurs, en 1942, je me souviens d'avoir lu dans le magazine Time, il y a bien longtemps, en 1942, 50% à peu près des pasteurs protestants américains ne croyaient pas à la divinité du Christ à l'époque. Peut-être ont-ils changé d'idée depuis. Et que l'on examine l'histoire de l'Église, et l'on verra combien la dévotion mariale a favorisé le vrai culte du Christ. Les chrétiens du siècle des conciles d'Éphèse et de Chalcédoine ont proclamé Marie Théotokos, comme je vous ai dit, Mère de Dieu. Pourquoi? C'est dans le but de défendre la doctrine de l'incarnation. Si au Moyen-Âge, puis au temps moderne, le christocentrisme de la dévotion mariale paraît s'estomper petit à petit, qu'on dirait qu'on oublie le Christ, les faits invitent à regarder au-delà des apparences. Ce ne sont pas les églises ou les communions religieuses que caractérise une dévotion envers la Sainte Vierge qui ont cessé d'adorer son Fils éternel, d'après Newman, mais celles-là même qui ont renoncé à la dévotion envers elle. En oubliant Marie, finissent par oublier le Christ, comme Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Le souci de la gloire de son Fils, qui s'affirmait dans la vive crainte de voir sa mère exaltée, ne s'est pas trouvé confirmé par les faits. Ceux que l'on accusait d'adorer une créature au lieu du Créateur adorent encore ce Créateur. Quant à leurs accusateurs, qui espéraient l'adorer avec tant de pureté, ils ont cessé complètement de l'adorer. Jésus. Partout où les obstacles au développement de leurs principes ont été enlevés. Ils gênent pas, hein? Les obstacles auxquels Newman fait allusion ici sont sans doute les mesures prises en Allemagne pour enrayer le développement de la théologie libérale. De toute façon, l'Église catholique ne se contente pas d'adorer en théorie, elle tire les conséquences pratiques qui s'imposent et pousse les fidèles à entrer dans un état de communion spirituelle où l'âme et son Dieu se rencontrent. Dans l'Apologia pro Vita Sua, il écrit « L'Église catholique ne permet à aucune image, d'aucune sorte, matérielle ou immatérielle, à aucun symbole dogmatique, à aucun rite, à aucun sacrement,